Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver et de recevoir ce soir Marie Cosnet dans Par les temps qui courent.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Marie Cosnet.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Il y a deux versions de l'histoire et il y a deux nuits. Une qui se ferme et une, incluse dans la première, qui s'ouvre. Il y a deux camps, il y a deux gamins, un qui veut se battre, Rhésos, et un qu'on connaît mieux et qui ne veut pas se battre, Achille. Deux prédictions, une dans chaque camp, deux bandes d'espions, quelques masques, deux bruits, deux fleuves, deux peaux de bêtes, des chevaux blancs et rapides comme le vent. C'est un extrait de votre dernier roman, Marie Cosnet, presque un extrait qui le décrit. On en rencontre où l'on rencontre encore, et parfois par surprise, des garçons géographie, des garçons de la plus grande ardeur, des garçons phénomènes, venus de l'Antiquité ou de notre temps le plus contemporain. Ce livre est publié aux éditions Fayard, Les enfants de l'aurore, c'est son titre. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bienvenue, Marie Cosnet. Je les rappelle parce qu'elles sont si belles, qu'elles ont été si saluées. Votre traduction des Métamorphoses d'Ovide était parue l'an passé?
Oui.
C'est ça?
C'est ça.
Hein, aux éditions de L'Ogre.
2017.
C'était Romain de Bête de Lièvre qui vous avait reçu dans Par les temps qui courent. On peut réécouter cette émission sur franceculture.fr.
Nous lisons dans les retards des héros et leurs refus, leur ambivalence. Mais tout se passe comme s'ils n'avaient pas le choix. Les héros sont effrayants et effrayés. Ils vont se battre. Le jeune homme aux cavales prestigieuses qui coule à flot de paroles, vient prêter main forte aux Troyens. Il est beau et fort, comme la vie et l'élan pur. Il y a une guerre, des forêts ombrageuses ou avancées, il y a des dangers, et il y a une sacrée excitation à subir et à être le danger.
Marie Cosnet, Jeanne Aléos lit un extrait des Enfants de l'Aurore. C'est un court extrait, mais qui dépose les choses comme le fait beaucoup le texte. Il y a des choses, il y a des êtres, il y a des chevaux, il y a des nuits qui s'ouvrent, d'autres qui se referment. Est-ce qu'il y a, justement, dans votre désir d'écrire ce texte, une manière de poser des choses dans notre monde ?
Alors, peut-être c'est une manière de prendre les choses qui sont posées dans notre monde ou qui ont été posées et déposées et de les reprendre, c'est pas du tout se les approprier, mais les recommencer, les redire, les reposer. Alors pourquoi? Par impossibilité de prendre autre chose que ce qui a été posé, et puis parce que ce sont toujours les mêmes choses à poser et reposer. Alors en l'occurrence, le danger, l'élan de vie qui est aussi un élan de mort, enfin. Et alors après, pourquoi il y a des chevaux, il y a des élans, il y a des garçons qui y vont Oui, je crois que c'est... Bon, après, c'est ce que je connais le mieux, les Rhésos, les mêmes noms, Achille et le Xanthe, c'est peut-être, pour moi, les choses qui ont été posées et que moi, je connais le mieux. Mais c'est vrai que j'en ai besoin encore.
C'est comme ça que ça se dit, en tout cas. C'est vraiment de l'ordre du besoin.
Je crois, oui, je crois. Alors, après, je suis en train de me poser la question au moment même, là où j'essaie d'y répondre, parce que pourquoi c'est eux dont j'ai besoin? Peut-être simplement parce qu'ils sont disponibles pour ça. On peut.
Peut-être parce qu'ils sont là, justement.
Ils sont là.
Ils sont du « il y a ».
Oui, ils sont là, ils sont posés, c'est vrai. Et, Et après, j'ai eu affaire à eux dans d'autres textes, dans les autres textes qu'on a, dans les Métamorphoses, mais pas seulement. Et par ailleurs, on a affaire aussi à tout un tas d'autres élans dans le monde de garçons qui vont et qui passent par chez nous, qui ne font que passer quelquefois, mais pour être empêchés d'aller plus loin. Donc tout ça est un peu compliqué. Et entre les deux, eh bien, là, dans ce livre-là, ils se sont rencontrés, ces garçons.
On y reviendra évidemment, Marie Kosnek, parce que les enfants de l'Aurore, et c'est vraiment très important qu'ils soient au pluriel, d'une part parce que au départ il y a une dualité entre deux enfants de l'Antiquité, qui seraient Rhésos et Achille, et puis ensuite il y a un pluriel plus grand avec des enfants qui traversent notre temps, des jeunes hommes, des réfugiés ou des migrants comme on les appelle, en tout cas des hommes qui sont en mouvement et qui quittent leur pays pour aller vers ailleurs. Et le livre est un lieu de rencontre. Est-ce que vous pouvez nous parler du temps dans lequel il s'est écrit? Comment il s'est écrit ce livre pour vous, qui n'est probablement pas le même temps qu'une traduction des Métamorphoses, par exemple, j'imagine.
Non, il s'est écrit vite. Il s'est écrit vite, mais enfin, j'avais toujours été intéressée par Rhésos, pour la raison qu'il y a ce chant dans l'Iliade, là, le chant où il apparaît, qui est un drôle de chant, parce qu'en effet, c'est la nuit, donc on devrait passer à une autre journée, et puis pendant la nuit, il se passe autre chose. Je dis une deuxième nuit qui s'ouvre, enfin une nuit qui sera insomnieuse, celle-là, à l'intérieur de la nuit. Et ça m'avait toujours un peu... C'est quelque chose que, quand on lit l'Iliade, c'est pas ça qu'on retient, évidemment. Le passage de Rhésos, il va très vite. Mais comme Euripide a écrit... Enfin, on pense qu'Euripide a écrit une tragédie qui s'appelle Rhésos. Enfin, on n'est pas sûr que ce soit Euripide qui l'ait écrite. Et même ce soupçon-là, ce doute m'intéressait, parce que c'était encore plus bizarre, ce personnage de Rhésos. Oui, il a une tragédie à son nom, mais c'est peut-être pas Euripide qui l'a écrit. Et la tragédie d'Euripide, elle a été mise un peu en soupçon parce que elle est étrange parmi les tragédies d'Euripide. On dirait un petit roman d'espionnage, en fait. On dirait un petit roman d'espionnage avec, dans les deux camps, ça s'organise, ça s'auto-espionne. Ulysse Diomède d'un côté, puis Dolon qui est l'espion raté, en fait, le très mauvais espion de l'autre côté. Et c'est à la fois comme un petit roman sous forme de tragédie et d'un garçon qui arrive très très vite et qui vient pour mourir. Et donc il est à la fois ce que vous avez lu, l'élan pur, enfin la vie, enfin si ça veut dire quelque chose, enfin une sorte d'élan, et puis à la fois un élan qui va vers rien, quoi. Donc c'est proprement tragique, et ça faisait longtemps que j'avais Rhésos en tête. Je savais pas du tout quoi ce que je ferais de Rhésos. Si j'avais un peu l'envie, mais l'envie très inhibée de traduire la tragédie d'Euripide, et puis commencer à traduire, c'est beaucoup de travail. Alors quand j'ai commencé à traduire, je me suis un peu découragée, et surtout j'avais envie de m'amuser avec ce texte, d'être plus libre. Enfin, m'amuser, c'est une tragédie, mais enfin, quand même, être libre avec le texte, en réalité. Et donc, voilà, j'ai eu envie de l'écrire.
Et c'est une liberté qui s'exprime comment, lorsque, justement, à la fois, vous allez voir du côté de Euripide ou d'Homère et l'Iliade, vous faites comment, vous, en tant que femme autrice du XXIe siècle?
Alors, je m'étais donné pour le Rhésos, pour le petit, je m'étais donné une sorte de dispositif qui vite fait ne fonctionne plus, en fait, parce que je n'aime pas tellement les dispositifs, au fond, je les tiens pas. Mais j'écris un chapitre, si on peut dire un chapitre, j'écris un extrait, un passage avec Homère, un passage avec Euripide, un passage avec Homère, un passage avec Euripide.
Ça veut dire quoi, avec? Vous les avez à côté de vous?
Oui, je les lis et je les réécris. J'ai l'impression que c'est... Bon, j'ai quand même toujours l'impression que ce soit plus ou moins précis de faire que ça, réécrire. Mais là, je peux le dire. Là, vraiment, je lis le texte et après je le pose. Et ce qui me reste du texte, je l'écris. Mais c'est drôlement... à la fois excitant, parce que c'est une aventure. C'est comme l'aventure de ces... C'est une aventure, et à la fois c'est une aventure qui est prise dans un chemin qui est déjà tracé. Alors ça, j'adore.
Oui, parce qu'on entendait d'ailleurs dans l'extrait que vient de lire Jeanne Aléo, c'est vraiment un flot de paroles. Vous êtes déjà dans un flot qui existe. Et dans cet extrait aussi, il y a l'idée de l'ambivalence des héros. Il y a quelque chose qui, lorsque vous vous mettez dans le flot de paroles qui raconte les héros, relève de, j'allais dire, d'un amour pour l'ambivalence, en tout cas d'un intérêt pour ça.
Oui, tous ces personnages, ils sont autant animés d'un désir de vie, mais si le désir de vie ou pulsion de vie, qui est aussi une pulsion tout aussi... il n'y a pas d'aventure sans goût de la mort, en fait. Sans risque absolu. Donc cette ambivalence-là, peut-être qu'on pourrait la dire autrement, parce que là c'est un peu massif de dire ça comme ça, et puis je ne suis pas à l'aise avec mais peut-être le dire autrement, c'est qu'il y a une espérance doublée d'une désespérance qui est son calque parfait. Alors ça, évidemment, peut-être que ce sont les personnages qui m'intéressent le plus parce que ils sont toujours complexes, et puis ils me semblent plus proches de ce qu'est notre vie au jour le jour en réalité, et donc je les comprends, et à la fois très proches d'aventures qui aujourd'hui peuvent nous sembler, qui sont héroïques et qui sont celles des garçons qui passent par chez nous et qu'on appelle réfugiés, migrants, en tout cas ceux qui tentent l'aventure, qui tentent le départ, qui sont à la fois en espérance absolue pour partir pendant quelquefois des chemins qui durent 3 ans, 4 ans, tout petits, partent à 14 ans quelquefois, 13 ans, et à la fois acceptant la mort en fait. Donc ce sont des ambivalences qui à différents degrés dans nos vies on retrouve toujours.
Et il y a quelque chose d'autre qui les caractérise, ces Rezos, Achille et les autres jeunes hommes qu'on croise dans votre livre, les enfants de l'Aurore, Marie Cosnet, c'est leur jeunesse. C'est justement qu'ils sont des enfants. Et il y a une présentation de vous que j'ai lue récemment où vous dites que vous avez passé comme ça beaucoup de temps à essayer de comprendre le sort que l'Europe, que nos pays réservent à ces réfugiés et ces migrants. Et c'est aussi une présentation qui rappelle que vous êtes prof, que vous enseignez, et que des enfants, alors plus ou moins jeunes, vous envoyez tout le temps, en fait, dans les textes, dans la manière dont, de près ou de loin, vous vous intéressez aux jeunes personnes qui traversent nos pays, et dans les adolescents à qui vous enseignez la littérature, comme si presque tout vous était au milieu de ça, des enfants.
On n'en sort pas, en fait, de l'enfance et de l'adolescence. Peut-être alors que, pour revenir à l'ambivalence, je le reprends du côté de l'adolescence, peut-être que pour moi, l'adolescence, c'est proprement ça, ce moment d'ambivalence c'est une espèce d'énorme, c'est difficile à dire parce que c'est quelque chose qui n'a pas de limite et à la fois qui de l'autre côté qu'on paye cher du côté du désespoir en fait. Voilà. Et ça, il me semble que c'est proche de l'adolescence que j'ai connue, que je connais, qui est pas loin.
Il n'y a pas de comparaison malhabile dans ce texte. La question n'est pas de dire que des destins se valent. En revanche, la question est de dire qu'il y a des points de rencontre entre des enfants de l'Antiquité, entre des enfants plus ou moins âgés qui quittent leur pays pour aller autre part. Et moi, j'entends aussi les enfants avec qui vous faites de la traduction, à qui vous enseignez les langues anciennes. L'idée n'est pas de dire que tout se ressemble. Mais l'idée serait quoi, Marie Cosnet, pour les mettre au pluriel dans un même titre, c'est-à-dire quand même les réunir?
Oui, ils sont réunis. Où ils se rencontrent? Où ils se rencontrent tous ces... Ils se rencontrent dans leur aspiration à... Leur aspiration... Alors bon, quand on est à trois, Bon, c'est facile. Il y a un nom, O-I-E. C'est Hélène. Ouais, à trois, au lieu. Enfin, quand on part à trois, mener le combat conseil, on y va pour récupérer Hélène. Bon, voilà, c'est le but, l'objectif, il est nommé. Hein, c'est un rêve ou un objectif ou un destin, c'est pas qui est déjà présent. Mais il y a ce chemin là. Alors après, qu'est-ce qu'on fait de ce chemin là? Rezos, il pense lui que il lui suffit d'un jour, et puis tous les vieux là qui sont là depuis 10 ans, il va en un jour c'est fini. Oui, je crois que le j'arrive et un jour après j'ai tout réglé, ça continue à me fasciner, quoi, moi. Ça aussi, ce côté de l'adolescence, j'en ai pas fini moi avec ça. Hein? Alors, bien sûr que j'en ai fini avec ça, évidemment, parce que justement, on écrit, on est dans le temps long, on est dans le quotidien, la répétition, mais c'est bien aussi. Mais j'arrive et vous allez voir ce que vous allez voir. Demain, j'ai terminé la guerre de Troie. J'adore ça, en fait.
Et ça aussi une ambivalence, c'est-à-dire ça peut être aussi le massacre, en fait. C'est autant le massacre que le tour de magie.
Oui. Alors, c'est pas du tout pour comparer, évidemment, ni pour dire que tout se vaut et tout est égal. Mais enfin, il y a tout un tas de jeunes gens en ce moment qui sont bloqués du côté, de l'autre côté de la Méditerranée, du l'autre côté, par exemple au Maroc, et qui disent, moi, le détroit de Gibraltar, c'est une piscine pour moi. Hein? Tu te rends pas compte. J'ai 14 ans et pour moi, c'est une piscine, le détroit. Et ouais, que ce soit plus compliqué, parce que l'aventure, elle vaut davantage. Alors c'est à la fois effrayant, hein, en tant qu'adulte, et en tant qu'adulte impuissant, puisque tout ça nous dépasse complètement, c'est effrayant d'entendre ça. Et à la fois, tu peux pas... Enfin, disons que c'est peut-être parce que j'ai lu Rezos avant ça que je l'entends, cette parole-là aussi.
Ça veut dire que concrètement aussi, ça vous sert à ça, Marie Cosnet, dans la vie, d'avoir lu ces textes?
Je crois, à entendre autrement. À entendre autrement et aussi à voir autrement les géographies, les déplacements géographiques, les empêchements. Oui, ça c'est vrai, je n'avais pas pensé.
Ça donne une autre oreille en fait.
Ça donne une autre oreille, oui. À le coup du détroit qui est une piscine.
C'est-à-dire, vous l'entendez comme si Rezos l'avait dit.
Rezos, il arrive et c'est ce qu'il dit. Hein, c'est ce qu'il dit dans l'Iliade. Il dit, bon, ça fait 9 ans que vous y êtes. Moi, j'arrive. Demain, c'est terminé. Les Grecs vont rentrer chez eux.
Bluff.
Bluff.
Moi, ma chance, ça aurait été que j'ai découvert les Grecs à l'extérieur de l'école et non pas à l'école. Donc, pas dans un cadre scolaire où il fallait que je... Voilà, que je regarde ça de façon rébarbative. Non, c'était... il a fallu un ami qui m'est très cher, qui me dise, tu sais, ouais, je dis, il faudrait peut-être que tu lises l'Iliade et l'Odyssée, ça devrait te plaire. Et puis il m'avait dit, lis ça tranquillement, tu verras. Puis, enfin, il a eu une manière tout à fait juste de me le dire. Et en lisant, j'avais été frappé. Immédiatement frappé par la manière avec laquelle, dans l'Iliade et l'Odyssée, aucun personnage, aucun ne doute de l'enchantement du monde. Ils sont tous convaincus que le monde est enchanté. Aucun ne s'étonne d'avoir Athéna en face de lui, quoi. Il y en a aucun qui dit, Athéna, non, mais c'est pas possible, vous êtes déguisé. Non, c'est Athéna, voilà, c'est Athéna, tout le monde est d'accord, et personne ne s'étonne. Et après, de voir comment cet enchantement s'effondre, c'est quelque chose qui m'a énormément touché, enfin... Parce que peut-être parce qu'au moment où je lis ça, je sens en moi s'effondrer cet enchantement. Je découvre, je ressens que le monde au fond n'est pas magique comme j'ai pu le croire. C'est l'effondrement d'un À ce moment-là, c'était la guerre en Bosnie, c'était alors que je venais de sortir de la guerre du Liban, il y avait la guerre en Iran, en Irak, bientôt ça sera le Rwanda, enfin, on s'en rend pas compte, mais en tout cas, je peux dire que si je regarde la courbe de la notion de l'enchantement de ma génération, celle qui est née en 68 jusqu'à aujourd'hui, elle est tragique, elle est vraiment tragique. C'est-à-dire, on est face à des bribes, à des fragments, et l'enchantement, il faut se le reconstruire de plein à bout de bras, comme il faut être des haltérophiles, quoi. Il faut le lever, quoi. Il faut faire de l'épaulé jeté de l'enchantement pour arriver entre nous à se refaire croire à quelque chose qu'on a l'impression que nous n'avons pas connu, mais que nos parents semblent avoir tous connu. Mais c'est peut-être une illusion, sans doute, c'est une illusion. Quand je lis les Grecs, je suis ramené à cette question de l'enchantement.
La voix de Wajdi Mouawad au micro de Laure Adler dans l'émission Heure Bleue sur France Inter, Marie Cosnet. Un ami lui dit « lis ça », et « lis ça tranquillement », et ensuite il décrit ce chemin qui va de la découverte d'un monde enchanté à la découverte, sa propre découverte d'un monde désenchanté, et la retrouvaille d'un monde enchanté par la lecture. C'était quoi votre chemin, à vous, pour arriver à ces textes si essentiels dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un ami qui vous les a tendus?
Alors, je pense que moi, mon chemin vers ces textes, il s'est fait sans choix, réellement. C'est-à-dire que... Mais je revendique ça autant que le reste, autant que le choix, le non-choix. C'est-à-dire que, on est à l'école. Et on est dans une sorte de moule scolaire qui fait qu'on fait du latin. Et puis finalement, on n'est pas trop mauvais en latin, donc on fait du grec. Parce que la possibilité est donnée. Je vois pas le moment où je me dis, où quelqu'un me dit, tu devrais faire des lettres classiques, etc. Il n'y a pas eu ce moment. Il y a eu des profs. Alors oui, ça, des rencontres avec des profs, et puis des possibilités offertes. Il n'y en avait pas 36 000, des possibilités, donc c'était latin, grec, et après, tu continues. Et en continuant, ça donne un attachement. C'est l'attachement l'anti-élan, peut-être, mais la chose qui se fabrique, qui se fait petit à petit. Et l'attachement, il arrive de là. Mais ça aurait pu être, je ne sais pas, j'aurais pu rencontrer des grands textes d'autres traditions, en fait. J'aurais pu. Il n'y a pas eu... C'est pas parce que c'était ces textes-là, parce que c'était moi, parce que c'était eux. Tu vois, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une rencontre qui était qui ne dépendait pas d'un choix, d'une décision, d'un conseil. Alors après, trouver à l'intérieur de ces textes-là de quoi fabriquer mes jours et les faire tenir, ça oui, ça évidemment, ça a marché.
Et c'était de quel côté? Parce que Wajdi Mouawad parle de l'enchantement. C'est d'ailleurs un drôle de mot hein, pour dire la manière dont personne ne s'étonne qu'il y ait Athéna devant soi, sur son chemin, ou n'importe quel dieu. Vous, c'était où, Marie Cosnet? L'espèce d'accroche dont vous parlez, finalement.
Alors, je crois que c'était du côté du tragique. Alors, ça, je pense...
Vous dites ça, mais ça pique, j'ai l'impression.
C'est-à-dire, je crois que c'est... Alors, avant même Ovid, parce que, Ovid, ça a été une révélation, en quelque sorte. Là, pour le coup, après, ça devient un choix, ça devient quelque chose de choisi à l'intérieur de ce domaine-là qui est immense. Mais avant ça, ça a été plusieurs choses. Ça a été la tragédie grecque, quand même, je crois, avec tout ce qui va avec... Antigone, par exemple, on retourne à l'adolescence, en fait. L'adolescence est à ce qui veut à la fois vivre et mourir en même temps. C'est elle, évidemment. Bon, ça, Antigone, Sophocle, ça a été des rencontres comme ça, d'abord. Avant l'Iliade et l'Odyssée, je pense. Et puis l'Énéide. L'Énéide, quand même, ce immense poème d'exil, alors que d'exil et de conquête, là aussi, d'espérance désespérée, là encore, l'ambivalence, et puis de romans d'aventure aussi, que j'adore, de romans d'aventure, il se passe toujours quelque chose, et toujours Toujours, toujours une déesse, une ombre, un simulacre, la scène antérieure qui se représente sur, devant le héros qui continue son chemin. Moi, ça me réjouit, en fait. Ça me réjouit. Donc, c'est de ce côté-là. Donc, il y a le côté tragique avec l'adolescence, souvent l'adolescence, comment on l'appelait, en perte, en fait, et à la fois pleine de désir, voilà. Et puis l'aventure. Et alors, évidemment, l'Iliade, tous ces personnages. Moi, je ne sais pas si ça m'a enchantée qu'Athéna soit présente. C'est aussi naturel que le fleuve qui parle, en fait. Et c'est un monde extrêmement violent. Les derniers combats d'Achille contre le fleuve Xanthe, avec tout ce sang, finalement, ce fleuve qui roule des eaux, des flots de sang. Mais c'est un peu comme si la violence la plus pure, presque, bon, on tue comme on... Ça fait partie des codes, en fait. On n'est pas du tout dans une... Enfin, on est dans un récit qui est tellement codifié, finalement, que les morts qui sont là, c'est... Je les ai vécues ni comme des enchantements, ni comme des désenchantements, mais comme des gestes, en fait. Des gestes qui nous mènent au champ d'après, en fait.
D'ailleurs, quand je vous entends dire ces mots-là, la guerre, l'exil, les gestes, les morts, et qu'on disait tout à l'heure avec vous, Marie Cosnet, que ça vous avait donné une autre oreille pour écouter le monde contemporain, vous écrivez très bien dans ce texte, Les Enfants de l'Aurore, que vous n'êtes pas de celles qui avaient été obligées de quitter un pays, obligées de vivre une guerre, etc. En revanche, vous êtes de celles qui est en mesure de l'entendre et d'y être sensible. Est-ce que vous faites un lien direct? Est-ce que votre rencontre avec ces thématiques-là, avec ces gestes-là, dans cette littérature, vous rend sensible à des choses qui vous sont étrangères? Et du coup, est-ce que la littérature, c'est un chemin de ça, en fait, de se rendre sensible à des choses qui nous sont étrangères?
Oui, alors, pourtant, la guerre dans l'Iliade, c'est vraiment... venir. Alors, bon, si on prend Rhésos, par exemple, ou Achille, les deux, même s'ils sont opposés, l'un qui veut absolument faire la guerre et l'autre qui veut pas, les deux, différemment, ils arrivent là pour mourir. On rejoint ce qu'on disait du tragique adolescent, etc. Ils arrivent là pour mourir. Mais il n'y a pas de psychologie là-dedans. Enfin, on ne cherche pas à comprendre d'où ils viennent. Enfin, ils viennent de... C'est des noms, Rhésos. À la fois, c'est celui qui coule, comme la parole, comme ce qui le précède, en fait, comme la légende. Et donc, c'est plutôt de l'ordre d'image. Alors, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le « il y a », en fait. C'est vraiment à la fois des noms qui nous répètent ce qui a été dit, et ce sont aussi des noms qui nous montrent des images. Donc c'est quand je parlais de gestes, c'était du côté de l'image, comme ça. Et je fais pas les morts, la violence qu'on trouve par exemple dans le fleuve Xanthe qui emporte ses propres enfants, etc. C'est jamais une violence. Alors les personnages pleurent beaucoup. Tous ces personnages pleurent en effet. Ils sont touchés par ce qui se passe et ils pleurent. Mais je crois pas que nous on a une émotion bien sûr à la lecture de l'Iliade. Mais je ne crois pas qu'elle soit de l'ordre de la compassion ou de l'imitation. On n'est pas du tout. C'est plutôt alors quoi? Je cherche.
On cherche.
Tout un tas de petits garçons font la route, quittent l'absence totale d'espérance. Tout un tas de petits garçons quittent et la route se crée sous leurs pas. La route des petits garçons se crée sous les pas, le désir et la route se créent sous les pas, sous les bâches des camions et des déserts et sous les flots noirs. Tout un tas de petits garçons quittent parce qu'ils n'attendent rien, mais ils attendent tout. Les petits qui n'attendent rien attendent tout. Ils sont la désespérance et ils sont l'élan. Comme Rezos, en quelque sorte, ils font le chemin qu'ils sont. Ils le font ensemble. Ils sont un phénomène. Tout un tas de petits garçons ont ce besoin urgent de quitter la désespérance et ce désir urgent de trouver l'aventure. Ils créent le chemin et l'aventure sous les pas, sous les rues des camions, le sillage des zodiaques, à chaque étape du parcours, jusque dans les rues glacées des villes. Parfois, dans un bout minuscule de nuit, ils tremblent. Ils ne savent pas quel chemin s'est inventé. Les pistes se sont brouillées. Ils disent « tout est gâché ». Et encore quand ils le disent. Ils disent « ma vie est fichue ». Et encore quand ils le disent, c'est qu'elle va recommencer. Ces grands désespérés, ils sont de grands ardents. Les gamins de la plus grande, grande des ardeurs. Tu as un besoin urgent de quitter et un désir malade aussi d'inventer un chemin. Ce qui n'enlève rien à la dépression. Quand tu es seul, en ville ou en forêt, sur une étape de ta route, près du fleuve L'Ancêtre, dans un camp, un hébergement d'urgence, n'importe où, ce qui n'enlève rien à la dépression qui te ravage comme elle sait faire. Tu ne sais plus rien dire, raconter, tu ouvres la bouche, pas un mot. Tes mains tremblent et tu vois, miroir ou pas, la tête que tu as et que tu ne te reconnaîtras jamais. Alors vite, vite, tu cours aux autres, ennemis ou alliés, pour qu'ils te disent qui tu es, qu'ils te remettent debout. Tu vas combattre, faire le récit des embuscades qu'on t'a tendues jusque-là. Tu vas dire tes rêves. Tes rêves de Guinée, qui n'ont jamais été des rêves, en fait. Mais un espace d'urgence, à cheval entre besoins fous et désirs fous, qui n'ont jamais été les tiens. Les rêves sont des bains qu'on ne prend dans un morceau de siècle et de pays qu'à plusieurs.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Marie Cosnet.
Sages comme des images qui chantent les jeunes des villes juste après que Luc Vauvilliers a lu un extrait des Enfants de l'Aurore, Marie Cosnay, où les questions de ces garçons, ces petits garçons que vous répétez dans le texte, ces petits garçons qui partent, et que Lou a si bien lu, c'est-à-dire c'est vraiment un chant là aussi, on sent que ça se répète, que ça court. La chanson de Sages comme les sauvages, là je notais à l'instant, dit « Si tu parlais, cela pourrait ». Ça veut dire que vous leur avez parlé ou vous les avez écoutés, ces enfants des villes, ces jeunes garçons qui ont quitté la Guinée ou d'autres endroits, Marie Cosnay? Mmh.
Oui, je leur ai. Alors, souvent, il y a à peu près 2 ans de ça, je les ai rencontrés quand ils passaient à la frontière où j'habite, la frontière entre l'Espagne et la France. Donc, il y a à peu près 2 ans, je dirais, 2 ans et demi, que cette route-là, par l'Espagne, par le détroit de Gibraltar et par l'Espagne, c'est en tout cas pour les jeunes d'Afrique de l'Ouest réouverte, qui jusqu'alors passaient davantage par l'Italie, la Libye et l'Italie. Et puis, il y a 2 ans, donc, cette route. Et puis, cet été, cette route s'est vraiment, vraiment rouverte. Donc, énormément de jeunes gens qui arrivent de Guinée, des mineurs, du Cameroun, de Côte d'Ivoire et du Mali, pour les pays les plus... qui laissent échapper leurs enfants comme ça, c'est les pays, c'est surtout la Guinée. Et donc oui, je les rencontre parce qu'ils passent, et puis que jeunes comme ils sont, entre 15 et 17 ans, on va dire, 15 et 18 ans même, adolescents, ils peuvent demander à être protégés comme des enfants, et c'est ce qui se passait jusqu'à il n'y a pas si longtemps quand même dans les départements. Et puis aujourd'hui, l'enfance a beau être protégée, eux ne le sont pas, puisque dans la loi, c'est une loi de 2016, quelque chose comme ça, qui vient. Donc les jeunes sont évalués socialement, documentairement. Or ils n'ont pas de documents d'identité, mais voilà. Donc ils sont dehors. Donc ils sont dehors. Ils ne sont pas pris en charge comme les autres enfants par l'aide sociale à l'enfance des départements. Alors ils le sont quelquefois, mais la plupart du temps ils ne le sont pas. Ou alors c'est tout un tas de bagarres juridiques pour qu'ils le soient. Et donc oui, je les ai rencontrés. Et ils sont davantage dans nos maisons que protégés par l'aide sociale à l'enfance. Ce qui pose tout un tas de questions en fait sur le statut de l'enfance, sur le statut. Voilà, tout un tas de questions.
Dans ce texte-là, il y a l'idée de l'élan, mais qui est tout à fait ravagé par la dépression, et que lorsque ces enfants, ces adolescents sont dans les villes, qu'ils tremblent quand la nuit fait froid, hein, je prends vos mots, Marie Cosnay, on voit bien que ce sont des enfants qui sont très très loin des crâneurs qui allaient enjamber le détroit de Gibraltar comme une piscine. C'est aussi des enfants comme ça que vous rencontrez?
Oui, bien sûr.
S'ils existent de cette manière-là dans votre texte, c'est parce qu'ils existent comme ça dans les villages ou dans les villes que vous connaissez?
Bien sûr. Donc ils ont enjambé le détroit comme on a dit, c'est-à-dire ils sont partis avec l'élan qu'on a dit, et puis ils sont arrivés, et alors ils sont arrivés sur ils n'ont pas choisi de partir, ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas le choix, quel que soit le non-choix, hein, que je saurais pas nommer, mais en tout cas ils sont arrivés parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et quand ils sont arrivés ici, ça a été la dure lutte contre l'administration, finalement, c'est là que ça devient quel que soit le résultat d'ailleurs, et pour des raisons différentes, parce que, par exemple, on a, pour le dire très clairement, il y a tout un tas de jeunes gens qui ont 16 ans, dont on sait très bien qu'ils ont 16 ans, 17 ans, peu importe exactement l'âge qu'ils ont d'ailleurs, mais ils sont vulnérables et seuls, qui ne sont pas aidés par les départements. Donc, ils vont être aidés par des familles qui ne sont même pas des familles d'adoption, qui sont des familles qui n'avaient pas prévu de recevoir un jeune homme chez elles. Et à 18 ans, et plus tard, quel est leur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ils sont sans papier, et quelquefois quand c'est dans des villages, quand c'est pas à Paris, quand c'est à la campagne, ils peuvent aller au collège, au lycée, faire un apprentissage, donc avoir une espérance là, mais pour eux, ce sont des obstacles permanents de l'administration ou même de la justice, puisque quelquefois ces jeunes-là qui passent devant le juge des enfants ne sont pas reconnus mineurs par le juge des enfants, qui donc n'a pas l'impression le juge des enfants n'a pas l'impression qu'il ne protège pas un enfant, puisqu'il dit ce n'est pas un enfant, donc je ne le protège pas. Donc il est complètement hors protection. Et là, donc dans ce cas-là, eh bien évidemment, c'est des chutes quelquefois. Enfin, tout ce qui s'est vécu dans les années à attendre le passage, eh ben là, les gamins, on les voit un peu dégringoler. Et puis il y a l'autre versant aussi, c'est les gamins pour qui. À force de lutte et de combat, on arrive à trouver une solution institutionnelle. Donc, ils sont protégés par un département. Ils sont dans un foyer. Voilà. Et puis, ils font un apprentissage. Et puis, on se dit qu'à 18 ans, ils auront un contrat jeune majeur, puisqu'ils sont en apprentissage. Et donc, on va les porter comme ça jusqu'à 21 ans, en tout cas jusqu'à la fin de l'apprentissage. Et puis après, ça sera... Mais le problème, c'est qu'il n'y a quasiment plus dans les départements de contrats jeunes majeurs, que les titres de séjour, ça ne va pas de soi, même si on a fait un apprentissage et même si on a été protégé par l'ASE depuis ses 16 ans, par l'aide sociale à l'enfance. Et puis, il y a autre chose aussi. Imaginons que tout aille bien, il y en a aussi. Eh ben, c'est des vies qui n'avaient pas été prévues, parce que finalement, faire... un CAP ou je sais pas quelle formation, n'importe quelle formation, parce que vous imaginez bien que ce sont des jeunes qu'on met dans des formations qui n'attirent pas grand monde, des formations dans lesquelles il y a de la place, et donc c'est des gamins qui s'effondrent aussi.
Parce que c'était très loin de leur rêve.
C'est très loin du rêve. C'est très très loin du rêve. Et même quand ça ressemble un peu au rêve, c'est-à-dire si le rêve pouvait s'énoncer comme ça, je vais en Europe, j'étudie et j'aurai un métier. Le rêve, il peut s'énoncer comme ça, quel que soit le métier. Malgré tout, quand le métier arrive et qu'on a 19 ans et que tout s'est passé finalement, mais à force d'un combat presque de chaque jour pour la plupart des gamins, donc de vigilance en fait, d'une immense vigilance tout le temps, eh bien, malgré tout, la chute ou même, je dirais, mais je ne sais pas comment le dire, mais il faut que la vie soit encore un peu périlleuse.
Et on en revient au danger, à cet amour-là du danger dans le texte que lisait Jeanne Aléos au début de cet entretien. Marie Cosnet, est-ce que vous vous attendiez à ce que ces jeunes gens percutent Rezos, Achille et les autres?
Pas du tout.
Ou est-ce qu'au départ vous vouliez juste écrire votre texte après les textes antiques que vous aimez tant?
Non, je m'étais pas attendue, parce qu'en fait d'habitude je c'est très séparé. En effet, je rencontre ces jeunes gens dans la vraie vie, dans la vie de chez moi et à la frontière et pas seulement. Je pense à plein en particulier là que je nomme pas et voilà, mais je les rencontre, je les connais, et si j'écris avec eux, c'est pas sur eux, mais avec eux, c'est d'abord sans les nommer parce que c'est pas le moment pour eux, et ensuite c'est pour essayer d'en dire quelque chose, non pas politiquement, mais presque en fait. Enfin, qu'est-ce qu'on fabrique? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fabrique? Et ça, c'est plutôt sur des textes courts que je vais donner à lire, mais à un petit nombre de personnes autour de moi, mais ou sur un blog, mais à destination immédiate, je dirais presque. Donc, je les fais pas rentrer dans l'écriture, jamais, je crois pas jusque-là. C'est la première fois, il me semble. Et puis là, le projet, c'était de réécrire Rezos, mais je pense que j'étais fascinée par cette parce qu'il y a en double chez Rezos, Homer plus Euripide, la nuit plus la deuxième nuit, Rezos plus Achille, enfin tous ces doubles là, tous ces doublons. Et quand j'ai eu ce désir de réécrire Rezos, je n'étais pas consciente que d'autres gamins étaient déjà là en fait, et qu'ils n'étaient pas si loin. J'en étais pas consciente. Ils sont arrivés tard dans l'écriture.
Achille n'est même pas le sujet de l'Iliade. C'est pas Achille, c'est sa colère.
Et tout le processus narratif de l'Iliade, c'est raconter comment commence la colère, comment elle s'apaise et comment elle finit. Sauf que dans ce processus narratif, il y a des choses qui sont un peu intrigantes au regard des règles de lecture que nous, modernes, nous avons. C'est-à-dire que, en réalité, c'est pas un processus de résolution. Il y a un moment donné où vous êtes très, très, très en colère et puis on parvient à vous apaiser. Ou alors vous vous rendez compte que cette colère était folie et puis vous vous amendez, vous vous convertissez. C'est pas du tout le cas d'Achille parce que l'apaisement à la fin est aussi brutal que le début de la colère. Donc, d'une certaine manière, aussi inexplicable. Il y a un moment donné, bon, il cesse d'être en colère. En fait, en faisant de la colère d'Achille le centre du poème, le centre véritable, c'est le mouvement. Moi, mon idée, c'était ça. C'était que le sujet réel, c'est le mouvement. L'homme en mouvement. C'est d'ailleurs ce que dit Montesquieu quand il parle des héros homériques, en disant le grand mérite, le génie d'Homère, c'est d'avoir présenté ses héros en mouvement, c'est-à-dire agissant, en réalité. Et donc, tout se joue dans le poème sur immobilité, course. Voilà. Qu'est-ce qui vous pousse à courir? Pourquoi vous vous arrêtez? Qu'est-ce qui fait que la course s'arrête? C'est la mort ou la bouderie? Voilà. L'emportement, l'élan. Voilà, c'est ça le souffle continu, en réalité, du poème.
C'est la voix de Vincent Delcroix au micro de Raphaël Enthoven en 2008 sur France Culture, dans les nouveaux chemins de la connaissance à l'époque. Marie Cosnet, on entend bien dans la voix de Vincent Delcroix que chacun, chacune y trouve son accroche dans ces textes-là. Et quand il fait de la colère le point central de l'Iliade, de la colère d'Achille, oui, et puis aussi plein d'autres choses. Néanmoins, la colère, dans Les Enfants de l'Aurore, dans votre roman, m'a semblé tenir une place importante. La colère et son apaisement, on y viendra peut-être plus tard, par la surprise notamment. Oui. Quelle place la colère dans ce texte-là?
Alors d'abord, sur ce qu'ils viennent de dire, tout à l'heure j'étais très maladroite en parlant du geste, etc. Mais c'était ça, c'est le mouvement en fait. C'est-à-dire que...
Qui vient contre l'immobilité,
oui. Et c'est pour ça que je disais, on est loin de la psychologie, on est loin de allons-y, la mort, les flots, enfin tout ça, c'est pas ça que ça dit, c'est la cruauté, mais des émotions, pas la cruauté qu'on pourrait comparer aux cruautés contemporaines, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse, en tout cas je dis pas qu'il y a pas ça dans l'Iliade, mais je dis que moi ce qui m'intéresse dans l'Iliade, c'est ça, c'est ce mouvement-là, ce geste-là. Et donc la colère, et alors la colère d'Achille, c'est son retrait en fait, c'est
ce que Delcroix appelle la bouderie.
Ouais, j'aime beaucoup la bouderie, parce qu'en fait c'est un sale gamin qui boude, et à la fois ce gamin qui boude, ce qui a l'air très anecdotique comme ça, une bouderie, c'est ce qui pourrait le sauver s'il continuait à bouder. Et le fait de quitter sa colère, finalement, ça sera sa perte. Et c'est une autre émotion qui le bouscule, c'est l'amour. En fait, qui vient contre la colère, c'est l'amour, en fait, puisque c'est pour ça qu'il va quitter sa colère, c'est quand Patrocle est tué. Et... Enfin, alors, c'est une deuxième colère sur la colère, puisque la colère le pousse à se mettre en retrait, il est prêt à partir. En fait, il est prêt à faire ce que personne n'est prêt à faire, c'est-à-dire à renoncer.
À la guerre.
À la guerre.
Et à tout ce qui va avec.
Et à trois.
À tout ce qu'on lui propose. Toutes les richesses, parce qu'on vient clairement faire la cour à Achille pour qu'il aille se battre.
Et là, au moment où on en est, quand commence le Résos, Achille, il est prêt à partir, à rentrer chez lui. Alors ça, c'est dingue quand même, parce que l'élan, le mouvement, c'est de venir vers... pour un but, quel qu'il soit. Donc lui, on sait que le but, il est destiné de longue date. Lui, il est déterminant, puisque si lui, il n'y va pas, tout le monde perd. Il est prêt à faire demi-tour. Donc il a, évidemment, si on respecte le code de l'épopée, de cette épopée-là, il a tort. Enfin, rien ne peut lui donner raison. Puisqu'il est là pour, il n'est qu'un élément, il n'est qu'un geste, il n'est qu'un mouvement, Achille, donc il est là pour y aller. Et en fait, il fait exactement le contraire. Et ce qui va le sortir de cette colère, c'est une colère plus grande, inspirée par sa douleur, en fait, sa douleur amoureuse, sa douleur ou amicale, enfin, peu importe comment on l'appelle. C'est de l'amour quand même.
Et votre propre colère, elle a mis en mouvement aussi l'écriture? Est-ce qu'il y avait de la colère dans l'écriture des Enfants de l'Aurore?
Alors j'ai eu beaucoup de colère et je crois qu'aujourd'hui, là, après, là, alors bon, c'est pas la question, mais aujourd'hui la colère s'est transformée en mini déprime, on va dire, parce que on est loin, quoi. On est tellement loin. Alors il faut retrouver la colère. Il faut la retrouver en tout cas. Oui, je crois que les Enfants de l'Aurore, quand je l'écris, quand je commence, je suis fort heureusement encore en colère.
La filoche qui restait me faisait signe, ne me soufflait rien comme morale, rien comme happy end, rien comme préférence, surtout pas un petit contre un autre, un pays contre un autre, un bon contre un mauvais. La filoche ne faisait pas l'apologie du sacrifice, ni ne plaidait pour le triomphe d'un monde noir de part en part, non. Rien de tout ça. Aucune théorie, aucune idéologie, aucune totalité. La filoche qui traînait à cet endroit-là me faisait signe. C'était un signe tout personnel. La beauté arrive, ravageuse. Je le sentais vaguement avant qu'elle arrive. Je le sentais que ta grande beauté, dite ennemie, me ferait du bien. L'attendant, je fabriquais des rimes et les essayais sur ma lyre. Bien sûr, le bien dont il s'agit, la flamme qui me sort du front par exemple, n'est pas exempt de souffrance. Il m'a fallu, pour la flamme, perdre un ami. Il m'a fallu accepter le destin qu'on a dit. C'est ça le bien. C'est plein de malheurs qui le jonchent. Mais je suis debout. Plus que debout. Demi-dieu. Invincible. Peu importe ce qui doit arriver. Vivant. Tellement vivant et amoureux de la vie que c'est dans la gloire, aux enfers, beaucoup plus tard, tout ce que je trouverai à dire. J'aime la vie et me fiche pas mal de régner sur des morts. Je préférerais être un rien de rien vivant qu'un grand tout mort. C'est ça qu'on retient. Le vivant. Le grand vivant. Boudeur. Fragile du talon. Fragile tout court. En feu. La filoche qui restait disait que peu importe les siècles et les territoires, il y avait toujours des surprises. Surtout des surprises de renversement. Marie Cosnet, c'est un extrait des Enfants de l'Aurore que je viens de lire à l'instant. Et bien sûr, ça pourrait être Achille qui parle, mais bien sûr, ça pourrait être vous. Ça pourrait vraiment être vous en train de dire qu'est-ce que je fais quand j'écris ce texte? Qu'est-ce qui me reste? Quel fil je finis de suivre? Qu'est-ce qui me reste comme filoche entre les mains? Et peut-être vous parliez à l'instant de la déprime et de la difficulté de ne plus être en colère et d'être dans autre chose. Mais enfin, en lisant ces textes, ce texte-là, on a l'impression que vous êtes du côté du vivant.
En tout cas, du côté du petit fil qu'il faut arriver à tenir encore pour se tenir debout. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 6 mois, que c'était plus difficile il y a 6 mois qu'il y a 1 an. Et voilà, donc on a besoin vraiment de tenir les fils qui restent. Et de garder les flammes qui peuvent nous sortir du front quand on est assez en colère. Mais en entendant le texte là, que évidemment je relis pas tous les jours, donc j'avais oublié, je me disais, ouais, mais c'est vraiment dire quelque chose de ce qu'on peut faire quotidiennement pour que ça tienne encore. Il y a 1 an, sans doute il y a 1 an que j'écris ça, je suis vraiment pleinement dedans. Aujourd'hui, quand je le dis, je sais que je me force un peu à le dire.
Hein. Et c'est entamé par...
C'est entamé par le fait
l'endurance,
qu'on...
Par l'endurance,
parce qu'on y a, parce qu'on se rend bien compte que sur des questions de comment dire... comment on va vivre ensemble demain, et comment tout un tas de gens qui sont là de toute façon vont vivre ensemble alors que rien n'est fait pour les accueillir. Enfin, on est épuisé. Ceux qui tiennent les fils depuis si longtemps, on continue, bien sûr, tout le monde continue. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait des relais qui soient institutionnels, qui soient... voilà.
Pour que ce soit vraiment des enfants de l'aurore, pour reprendre le titre de votre texte, ouais, Marie Cosnet.
Ouais, ouais. Donc il y a une vraie inquiétude.
Pour reprendre les mots que vous prêtez à Achille dans ce texte et que je viens de lire, à savoir, et c'est étonnant parce qu'au micro de Romain de Bec-de-Lièvre la semaine dernière, Frédéric Boyer rappelait ces mots de Achille aux Enfers, qui dit au final « j'aurais préféré être un tout petit rien vivant qu'un grand tout régnant sur des morts ». Peut-être que ça dit aussi les forces en présence, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être des grands tout régnant sur des morts plutôt que des petits riens vivants.
Ouais, ben c'est bien d'être un petit rien vivant. Mais après, ce qui est merveilleux avec Achille, c'est que une fois qu'il est dans la mort, il peut encore dire qu'il voudrait, il préfère être le petit rien vivant. Donc, on va dire que c'est ça, tenir, même quand ça tient plus, on tient encore.
Et ça tient, ces fils-là, on sent bien que ça parle, que vous parlez, Marie Cosnet, j'allais dire presque d'un savoir-faire quotidien, mais allons-y pour ça. Mmh. Mais c'est aussi du côté de l'enseignement, et c'est tout autant du côté de l'écriture, et du côté de la traduction. Tout ça, c'est des petits riens qui tiennent le vivant.
Oui, 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 ça, bien sûr, bien sûr. Alors la traduction, c'est évident. Que ça tient vivant et ça tient debout et ça je crois pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, savoir que c'est refaire ce qui a été fait et que ça au moins là-dessus au moins on peut s'appuyer en séquence je sais pas, c'est un peu comme les chemins qui sont déjà tracés, on sait que sur cela on peut aller. Et c'est pas du tout dépressif, ça, pour le coup. C'est ça fait tenir. Et puis l'écriture, évidemment, mais le savoir-faire quotidien aussi, hein, on y tient. Hein.
C'est-à-dire, pour être un peu plus précis.
Non, par exemple, accompagner un jeune homme qui a 15 ans devant l'aide sociale à l'enfance, voir qu'il est refusé, faire un recours devant le juge des enfants, il est refusé, on fait un deuxième recours, on va jusqu'en cassation, et puis finalement, voilà, on lâche pas, on lâche rien.
Bon courage. Les enfants de l'aurore, Marie Cosnet, c'est le titre de votre dernier roman. Il est paru aux éditions Fayard.
Merci.
À la prise de son ce soir, c'était Olivier Dupré. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Jeanne Aléos, Luc Vauvillier, Valentin Rémy, Marianne Chassor et Romain de Bec-de-Lièvre qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Vous pouvez la réécouter sur franceculture.fr à la page de Parler Temps qui est court. Vous pouvez vous abonner au podcast pour écouter celle-ci puis toutes les autres quand vous voulez, où vous voulez. Et puis vous pouvez rester sur l'antenne de France Culture car dans un instant, c'est le journal. À demain.
Ça va être difficile, c'est 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 diffic d'alléger.